grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, nous voilà à nouveau à bord de notre Optimiste, prêt à quitter son port pour aller naviguer sur les ondes de l'actualité locale, toujours sur le 103 FM. Notre Optimiste ce soir se teint de vert puisque nous accueillons trois étudiantes et étudiants de l'école d'ingénieurs AgroCampus Ouest qui viendront nous parler de l'exposition florale. Et ensuite, je laisserai la barre à Enora pour une chronique à plusieurs voix sur des recommandations littéraires en lien avec la thématique du genre, puisqu'on est en plein milieu du mois du genre. Mais nous commençons tout de suite avec Chloé du Planning Familial 49 qui reprend ses chroniques engagées du mercredi, commençant alors à naviguer sans plus tarder. Chloé, donc bonsoir, je me tourne vers toi.
Bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler de bénévolat. C'est un sujet qui est très large et qui ne s'applique pas seulement au planning familial et qui concerne toutes les associations en général. On va commencer par définir plus précisément ce qu'est le bénévolat. Si on suit la définition du dictionnaire Larousse, le bénévolat c'est le fait d'accomplir une action bénévole, donc qui apporte son aide sans rémunération. Cette définition, elle est très large, car il y a autant de types de bénévolat que de bénévoles. Ça peut aller du bénévolat dans une association qui recueille des animaux abandonnés, au bénévolat d'aide aux victimes de harcèlement scolaire, par exemple. On peut donc bien vite voir que les possibilités sont multiples. Vous pourrez forcément trouver une action bénévole qui correspond à vos envies et à vos valeurs. Nous savons qu'en France, un Français sur quatre fait du bénévolat, plus ou moins régulièrement dans une association, ce qui représente quand même une bonne partie de la population. Mais alors, qu'est-ce que c'est que d'être bénévole au planning familial ? Tout d'abord, c'est une action militante. Choisir de donner son temps pour une association engagée, telle que le planning familial, c'est militant. On est d'accord avec les valeurs qu'on choisit de défendre, telles que l'inclusivité, ou encore l'accès à la contraception pour tous, par exemple. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très varié. Comme dans beaucoup d'associations, les possibilités sont vraiment multiples. On fait diverses actions bénévoles. On peut, par exemple, penser à la présence à un village associatif, récemment. Ça permet de donner de la visibilité à nos actions et à nos valeurs. Dans ce type de moment, on tient donc un stand. On peut par exemple proposer des animations sur le thème de la prévention, afin de rendre les sujets un peu plus légers et donc plus attractifs. Mais il existe plein d'autres possibilités. Il y a la possibilité de faire une permanence à l'accueil du planning. Dans ce cas, on est positionné au bureau dans l'entrée et on est en charge de répondre au téléphone, d'accueillir les usagers qui viennent avec ou sans rendez-vous, et de les orienter du mieux possible. Ça permet de voir la réalité du terrain, des actions qu'on met en place. Bon, je pense que le maître mot du bénévolat, c'est vraiment le terrain. Ça permet de vivre à fond ses convictions et ses valeurs qu'on a à cœur de défendre. Ça permet de se rendre compte de la réalité des actions que l'on propose et de voir que ça peut toucher les gens. C'est la vraie force du bénévolat, les actions qu'on mène. Pour ma part, je dirais que c'est ce qui me fait le plus vibrer. J'ai rarement vécu quelque chose d'aussi fort que de partager un moment de sensibilisation avec des gens qui ont les mêmes convictions que moi et qui ont envie d'en parler et de les partager avec le plus grand nombre. Pour terminer, je ne peux que vous encourager à vous lancer dans le bénévolat. C'est une forme d'engagement très adaptable et ça permet d'être vraiment dans le concret. Vous pouvez vivre des moments très forts et très intenses qui vous donneront envie d'en faire encore plus.
Merci beaucoup Chloé pour cette chronique qui donne vraiment envie de s'engager. Et je me tourne maintenant vers nos autres invités, donc Clément, Ronin et Loéza. Bonsoir.
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 Vous êtes donc tous les trois en études à AgroCampus Ouest et toute votre école va se végétaliser complètement ce week-end du 18 au 20 mars dans le cadre de l'exposition florale. C'est un parcours de 7000 mètres carrés complètement végétalisé, mais aussi des conférences et des spectacles qui seront au rendez-vous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comment avancent les préparatifs pour cette édition qui commence après-demain ?
Alors, ça avance à grande vitesse depuis lundi,
Lundi, dans l'après-midi, on commence à monter l'exposition. Donc là, dans toute l'école est en train de se métamorphoser. Les végétaux arrivent, les matériaux arrivent dans les différentes zones de l'école. Et donc tous les étudiants sont en train de créer des univers qu'ils ont imaginés sur le thème, les souffleurs de rêve.
Exactement, et donc pour revenir à ce thème qui est le fil conducteur de cette année, à quoi il fait référence ce titre ?
Alors c'est un thème qui a été élu et voté par l'ensemble des étudiants, et donc ça apporte une touche artistique et un peu plus créative, et ça laisse vraiment toute la liberté aux étudiants de s'exprimer, tout en gardant l'idée du végétal et de promouvoir le végétal.
Et pour revenir un peu sur votre école, AgroCampus West offre des formations en ingénierie du coup agricole, en agronomie et en horticulture. Et l'exposition florale, donc j'imagine c'est aussi un moyen de donner à voir toutes ces formations dans un événement un peu fédérateur.
Exactement, puisque nous, notre école à Angers, elle est spécialisée en horticulture et paysage. Donc nous produisons nous-mêmes les végétaux qui sont utilisés dans l'exposition, 15 000 végétaux dans les serres de l'école. Et on fait la conception de des zones, donc du paysage finalement.
Et donc pour revenir au thème souffleur de rêve, c'est un nom qui m'a assez interpellée quand j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai supposé qu'il peut aussi faire référence aux personnalités que vous avez invitées, parce que cette année la programmation est tournée beaucoup vers les enjeux écologiques du paysagisme, par exemple l'agriculture urbaine, les écolieux ou la flore sauvage. Donc comment vous avez choisi ces sujets que vous allez aborder ?
Alors en fait, l'idée générale de l'exposition, depuis qu'elle existe, c'est de promouvoir le végétal. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le végétal, il est présent dans les enjeux de transition. Donc l'idée, c'est de montrer toutes les nouvelles choses qui apparaissent, notamment l'agriculture urbaine qui se développe maintenant depuis de nombreuses années. Et donc c'est pour ça que nous avons notre première marraine, pour cette édition, qui est présidente de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, donc qui essaye de fédérer en fait tous les acteurs de l'agriculture urbaine. Et après, dans la programmation, plein d'autres thèmes qui sont abordés, toujours en lien avec le végétal. Et puis ça permet de faire découvrir des choses aux gens qui ne sont pas forcément visibles, mais qui existent et qui sont en train de se construire en fait.
Et est-ce que vous abordez ces questions de transition écologique et agricole dans vos formations ?
Alors oui, dans nos formations, on a toute cette partie. On a notamment une nouvelle spécialité qui s'est offerte à nous en lien avec le végétal en ville. Donc c'est vraiment une nouvelle tendance et quelque chose qui tend vers l'amélioration de la vie des citadins.
Oui, et du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, vous l'avez dit, c'est Anouk Barka qui est paysagiste et marraine de l'exposition florale cette année et qui va tenir donc une conférence sur l'agriculture urbaine. Et c'est un mode de production qui vise aussi à l'autosuffisance alimentaire en ville, mais aussi à valoriser les espaces urbains vides. Donc cette thématique, elle me paraît très importante parce que AgroCampus West s'inscrit en fait lui-même dans un espace urbain. Est-ce que vous allez aborder ce sujet au-delà de la conférence pendant l'exposition ?
Alors il y a notamment un stand qui est réalisé par l'école partenaire qui vient d'Allemagne en fait. Et du coup, à travers ce stand, on va découvrir deux villes différentes. Une ville très urbanisée, sans végétaux finalement. Une ville très froide, très grise. Donc ça sera la première salle, et quand on va arriver dans une seconde salle où là il y aura un lien, une ville qui est totalement en symbiose avec le végétal, qui va montrer les bienfaits du végétal sur la santé, et ça fait le lien avec aussi d'autres conférences qui seront présentes dans le week-end. Donc voilà, plein de thématiques pour montrer les bienfaits du végétal en ville et tout ce que ça pourra apporter tant au niveau de l'autosuffisance alimentaire que de l'aspect social, parce que les gens pourront, pourquoi pas, aller jardiner ensemble. C'est la question des jardins partagés.
Évidemment, le bien-être en ville et tout ce qui concerne la dépollution des sols et de l'air, donc améliorer la qualité de vie des citadins.
Et il y a aussi une conférence qui a lieu où c'est un projet qui a été fait pour un jardin à visée thérapeutique à la clinique de l'Anjou.
Oui, ça aussi, c'est vrai que ça m'a assez intéressée quand je l'ai vu dans le programme. Mais est-ce que vous, quel est le sujet parmi tous ces enjeux liés à la transition agricole qui vous intéresse le plus et que vous allez peut-être approfondir lors de cette expo?
Alors, je pense que c'est avec ce thème, les souffleurs de rêve, c'est d'apporter, après tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années, apporter un souffle un peu vert, une bouffée d'air saine, sans masque, pour le dire, puisque ça sera le cas. Quelque chose de vivant, d'aéré. Et le végétal, ça apporte ça. Ça apporte, ça assainit l'air pour certaines plantes. Donc je pense que c'est cette idée du rêve et tous les bienfaits que ça peut avoir sur la santé, autant du point de vue visuel que auditif, avec le bruit du vent et choses comme ça, avec les feuillages, tous les bienfaits que ça peut avoir sur l'humain et de se rendre compte que finalement il faut se reconnecter totalement à ce végétal, parce que c'est clé et c'est là où tout le monde se sent le mieux finalement.
Et donc vos collègues, les autres étudiantes et étudiants d'AgroCampus ont réagi assez bien à cette proposition?
Alors oui, cette proposition de thème a été élue à la majorité. Et oui, on est plutôt content de ce thème parce qu'il laisse place à plein d'idées différentes. Donc l'idée d'une nouvelle ère en lien avec le végétal.
Et pour aborder une autre question du programme, ce sont les écolieux. Il y aura Franck Bouler qui va animer une conférence sur son expérience de vie à Kervillers. C'est un écolieu en Bretagne. Et les écolieux, c'est des espaces de vie autogérés, des communautés solidaires qui sont elles aussi autosuffisantes. Donc comment, d'après vous, l'agronomie et le paysagisme que vous étudiez peuvent intégrer cette réflexion sur l'autosuffisance ?
Dans un secteur, dans une zone de l'exposition, il y a qui s'appelle le triangle. En fait, la zone aborde tout autour de l'habitat, comment on peut être autosuffisant avec, par exemple, des fours grâce au soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La permaculture.
Il y a aussi les herbes médicinales, donc apprendre à se soigner ou juste à s'alimenter correctement. Et donc oui, cette zone a vraiment pour but de promouvoir le bienfait du végétal et en quelque sorte tendre vers une
autosuffisance.
Une autosuffisance alimentaire.
Et puis d'une certaine façon faire aussi bien en termes de confort de vie, mais avec moins de choses. Et du coup, dans cette zone, il y aura aussi les low-tech. Donc c'était le four solaire, ça sera aussi la douche solaire, donc tout un système lié avec l'eau et avec la phytoépuration pour montrer qu'on peut faire aussi, garder notre confort et avoir toujours un respect de la nature qui est présent. Faut juste réfléchir un peu à d'autres systèmes et faire des compromis parfois sur certaines choses, et ça permet d'ouvrir l'esprit et en même temps de promouvoir le végétal. Donc on allie plusieurs aspects.
Et donc il y aura certains étudiants et étudiantes qui vont être présents pour expliquer un peu tous ces enjeux-là.
Tout au long du parcours, il y a les étudiants qui auront créé leur stand, qui seront présents pour expliquer, pour partager avec le public sur d'ailleurs leur stand, mais aussi toutes les questions que le public pourra avoir sur le végétal, puisque c'est aussi notre formation. Et évidemment, il y aura des animations selon les stands et selon la programmation. C'est très riche de découvertes pour tous les publics, aussi bien les enfants que les plus vieux. Donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à propos des enfants, c'est, l'exposition florale vise aussi à transmettre en fait, tous ces enjeux-là aux plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le jeune public ?
Alors, il y a plusieurs animations. Donc, c'est vrai que le but de notre exposition, c'est de sensibiliser au plus jeune âge à l'environnement. Et donc, on a différentes activités qui sont proposées. On a notamment le jeu, on a un jeu de l'affiche où les plus jeunes personnes pourront découvrir que l'exposition florale se fait depuis 44 ans maintenant. Donc on est à la 22e édition et donc pour montrer que le végétal s'inscrit au fur et à mesure dans nos sociétés.
Et puis ce qui est marquant aussi pour les enfants, je pense que c'est tous les décors artistiques qui vont être créés qui seront très impactants parce que parfois très grands. Dans un bâtiment où on va transformer un bâtiment, ce qui est pas très courant. Et c'est ça aussi qui peut impacter les enfants, c'est que voilà, ils vont voir des choses qui vont les émerveiller dans des ambiances à l'obscurité ou pas, avec des univers très différents, un peu magiques parce que c'est le rêve. Donc c'est ça aussi qui peut marquer et accrocher ce public sur le végétal.
Oui, et d'ailleurs, il y a aussi au programme des spectacles, j'ai vu. De quoi il s'agit plus précisément ?
Alors, il y a des défilés végétales tout au long du week-end. Il y en a, donc ça, c'est un défilé qui dure 30 minutes et où des élèves ont préparé des costumes entièrement faits de végétal.
Et donc, pour conclure, quel est votre rôle pendant ces 3 jours ? Comment vous serez mobilisé ?
Alors, nous, personnellement, on est à la communication. Donc, le but, c'est d'accueillir des radios, des journalistes. C'est également de transmettre tout ce partage, ce temps d'émotion sur nos réseaux sociaux et de partager avec les 450 étudiants et nos visiteurs qui, on l'espère, seront nombreux.
Donc moi, je suis président de l'association et donc avec l'ensemble du bureau, on est 6. Notre mission, c'est d'organiser l'exposition en général avec les 16 secteurs. De faire que tout aille bien, de fédérer les étudiants autour de ce projet qui est quand même important parce qu'il prend 2 ans de préparation. Donc voilà, on organise toutes les réunions, tout le montage, on est en plein dedans justement, et donc voilà tout le week-end qui arrive.
Super, eh bien merci beaucoup donc à Loéza, Clément et Ronan, un étude à Gros Campus Ouest et engagé dans l'organisation de l'exposition florale. Je le rappelle, ça, c'est 3 jours d'exposition, d'événements et de spectacles autour de l'horticulture et du paysage. L'exposition florale vous donne donc rendez-vous dès ce vendredi 18 mars à partir de 13h30 et à partir de 9h samedi et dimanche. Pour toutes les informations sur le programme et sur les tarifs, vous allez pouvoir visiter le site expoflo.com. Quant à nous, après cette virée tout en vert, on va continuer avec un peu de musique de Wild Side de Indra Rios Moore.
Sinner, won't you hear what I'm saying? You've been swinging, not praying. One day of praying, 6 nights of having fun. The odds against going to heaven are 6-1. Praying 6 nights of having fun. The odds against going to heaven are 6-1. Sinner, won't you hear what I'm saying? Sinner, you've been swinging and praying. One day praying 6 nights of having fun.
Rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute du 103 FM pour l'Optimiste sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers. Et la prochaine étape de notre navigation, c'est avec Enora. Enora a saisi l'occasion du mois du genre de l'Université d'Angers pour parler de sa passion, la littérature, un lien avec les thématiques du genre. Et on écoute son petit reportage tout de suite.
Pour réaliser une sélection variée d'ouvrages sur le genre, j'ai voulu me tourner vers plus connaisseurs et connaisseuses que moi. On commence avec Sam, homme transgenre et bibliothécaire. Il a eu un coup de cœur pour la BD de Hubert Ezanzime, Peau d'homme.
C'est l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Bianca. Dès le départ, on apprend qu'elle va se marier, c'est genre une opération commerciale. Hein. Elle va commencer à se poser des questions sur le monde qui l'entoure, sa place dans la société. Sa tante va donc lui donner une peau d'homme qu'elle va enfiler. Et donc évidemment, Bianca va aller un peu explorer ce monde auquel elle n'avait pas accès en tant que femme. Du coup, elle va vraiment expérimenter, elle va se permettre plein de choses grâce à cette peau d'homme. Et donc ça pose vraiment plein de thématiques. Elle va se retrouver obligée de lutter dans cet espace pour trouver sa place. Et elle va apprendre à se connaître, en fait. De devoir lutter pour découvrir qui on est. Clairement, ça a touché quelque chose chez moi. C'est une BD qui est hyper optimiste, qui parle d'une espèce de joie un peu féroce, de prendre ce qu'on a envie d'avoir. Ça ressort par tous les pores à la fin et c'est vraiment génial.
La sexualité est centrale dans Peau d'homme et une sexualité que Bianca, de par sa position de femme, ne peut pas vivre à 100%. Pour Juliette, fondatrice du collectif d'artistes Ardent Club, la sexualité féminine est une question majeure. Elle s'est intéressée à Bertoul Borébec et son essai « Balance ton corps », manifeste pour les droits des femmes à disposer de leur corps.
Bertoul Borébec est une autrice, performeuse et artiste afro-féministe qui, dans son essai, aborde son activité de travailleuse du sexe afin de déboulonner les stéréotypes qui y sont attachés. Après le mouvement MeToo, elle revendique la nécessité d'une nouvelle révolution permettant une véritable libération de la parole autour de la sexualité féminine. Dans un monde où les inégalités entre femmes et hommes perdurent, un des remparts à une véritable émancipation féminine tient à cette respectabilité que nous sommes censés incarner et selon laquelle nous devrions nourrir de la honte à propos de notre désir. Sous couvert de morale, il est entendu que les femmes qui tirent profit de leur sexualité sont condamnables, ce qui revient à dire qu'elles ne peuvent faire d'un usage libre de leur corps sans en être blâmées. Je recommande chaleureusement ce livre à toute personne souhaitant déconstruire de manière abordable et pleine d'humour la manière dont le sexisme régit le rapport entre les femmes et la sexualité.
N'est-ce pas brutal d'être mis sous silence, jugé ou harcelé pour son genre ? La violence est alors active de la part de la personne discriminante, mais qu'en est-il de la violence de la part des personnes discriminées ? La colleuse Emma a été marquée par l'essai « La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste » par l'autrice Irénée.
Ce que j'apprécie chez Irénée, c'est qu'elle a vraiment à cœur d'écrire des choses qui seraient compréhensibles pour un maximum de personnes. C'est vraiment un tout petit livre hyper concis qui cherche à remettre en cause la phrase « Le féminisme n'a jamais tué personne ». Et en fait, elle démontre à travers plusieurs exemples qu'il y a eu des cas de violence au nom de la cause des femmes. Elle parle par exemple de sa grand-mère, des suffragettes, ou elle parle même d'exemples qu'elle ne cautionne pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une vision du féminisme qu'on voit très très peu, en fait. Ce livre-là, il n'est pas du tout pour dire que les hommes et les femmes, en fait, on est violents ou non. En fait, c'est plutôt un questionnement. Elle met en face à face la violence des femmes pour se défendre face à la violence du patriarcat qui, elle, est issue d'une construction sociale. Elle essaie vraiment de juste montrer que ça existe. Moi, j'ai vraiment apprécié ça.
Après la fluidité des genres et la performance de son genre, parlons de l'attirance envers tel ou tel genre. Sarah, qui se revendique haut et fort lesbienne et militante queer, vous en parle.
J'ai récemment découvert un roman graphique intitulé Stuck Rubber Baby de Howard Cruz aux éditions Casterman. Sa carrière tourne autour des thématiques LGBT en lien avec son coming out dans les années 70. Et Stuck Rubber Baby, ça raconte l'histoire du jeune Tolan Polk, homme blanc cisgenre qui va découvrir son homosexualité ainsi que la réalité du racisme et des violences policières dans une petite ville des États-Unis des années 60. C'est la plus grande œuvre de Cruz. Ça mêle autobiographie et fiction, et c'est également le plus beau roman graphique que je n'ai jamais lu, et c'est pourquoi je vous le recommande très fort.
J'aimerais moi aussi ajouter ma pierre à l'édifice, ou pour rester dans l'univers maritime de l'optimiste, ajouter mon anémone à la barrière de corail, Joli Joli Monstre, par Julien Dufresne Lamy. Joli Joli Monstre est un roman à deux voix. On suit James, drag queen des années 80-90, face à Victor, aspirant drag queen de nos jours. À leur côté, on découvre comment mettre une perruque, créer son personnage, la culture du drag, tout en étant aux premières loges de l'épidémie de sida à New York. C'est passionnant, hypnotisant, bienveillant. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection, et évidemment que toutes les références des ouvrages sont à retrouver sur le site radiocampusangers.com.
Merci à Enora pour cette chronique littéraire à plusieurs voix. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour vous rappeler que le mois du genre de l'Université d'Angers continue jusqu'à fin mars avec des conférences, des spectacles et beaucoup d'événements. Pour découvrir tout le programme, rendez-vous sur moisdugenre.univ-angers.fr. Sur ce, eh bien, notre optimiste termine sa virée dans l'actualité locale. On vous donne rendez-vous à demain, toujours à 18h, mais pour ce soir, restez sur le 103FM pour votre rendez-vous sportif de Ta Gueule Coubertin à 20h. Ensuite, un peu de rap et hip-hop avec les Scratch Fellas. Et pour terminer, du rap souterrain avec Lamine de 22h à minuit. Je vous souhaite une très très belle soirée sur Radio Campus Angers.
Vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.